VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia avec vous. Heureux de vous présenter cette édition du vendredi 5 août 2022 et voici les titres. Au Burkina Faso, au moins 13 personnes dont 4 soldats ont été tués dans des attaques dans le nord du pays. La signature hier d'un accord de paix entre le gouvernement sénégalais et les rebelles du MFDC à Bissau a été éclipsée par les résultats provisoires des élections législatives. La Chine suspend sa coopération avec les États-Unis sur le climat en réponse à la visite de la présidente de la Chambre américaine à Taïwan. En Irak, nouvelle démonstration de force du leader chiite Muqtada Sadr. Des milliers de ses partisans se sont mobilisés ce vendredi. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est envolé ce vendredi pour Doha avant la signature prévue lundi d'un accord de paix avec des rebelles. Les pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés ont débuté en mars après plusieurs reports pour mettre fin à des décennies de troubles et d'instabilité. L'un des principaux groupes armés, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, n'a pas encore annoncé s'il allait paraffer ou non l'accord. Ce front a été à l'origine de l'offensive qui a coûté la vie à l'ancien dirigeant Idriss Déby. En République démocratique du Congo, 10 personnes tués dans des manifestations contre la mission de l'ONU la semaine dernière ont été inhumés aujourd'hui à Goma après une cérémonie d'hommage populaire. Fin juillet, des manifestants ont saccagé et pillé des installations de la MONUSCO, accusées d'inefficacité contre les nombreux groupes armés. 32 civils et 4 casques bleus ont été tués en une semaine. Dans le nord du Burkina Faso, 9 supplétifs civils de l'armée et 3 soldats ont trouvé la mort hier jeudi. Ils ont été tués dans des attaques simultanées de djihadistes présumés. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le détachement militaire de la commune de Bourzanga a été d'abord la cible d'hommes armés. Ils se sont ensuite attaqués à des positions de volontaires pour la défense de la patrie des supplétifs de l'armée burkinabé dans les localités d'Alga et Boulunga dans la même commune. 3 soldats sont tombés à Bourzanga et 9 volontaires à Alga, a précisé une source sécuritaire évoquant quelques blessés. Un responsable local des VDP a indiqué que 6 d'entre eux sont tombés à Alga et 3 à Boulunga. Lors de leur riposte contre ces attaques coordonnées, les forces armées burkinabées et les volontaires ont neutralisé une trentaine de terroristes, a affirmé une seconde source sécuritaire. Les récentes descentes des djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso ont poussé les autorités à créer 2 zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite et où l'armée mène des opérations contre les djihadistes.
Un rapport d'experts des Nations Unies consulté ce vendredi par l'AFP conclut que l'armée malienne et des soldats blancs, dont la nationalité n'est pas précisée, sont impliqués dans la mort non loin de la frontière mauritanienne de 33 civils, dont 29 mauritaniens et 4 maliens. C'était il y a 5 mois. La disparition de ces civils le 5 mars avait fait grand bruit au Mali et en Mauritanie. Les deux pays avaient ouvert une enquête conjointe dont les résultats ne sont pas encore publiés. Le Sénégal a signé hier à Bamako un accord de paix avec des rebelles de Casamance. Ces derniers se sont engagés à déposer les armes et à œuvrer pour le retour définitif de la paix dans cette région. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le chef rebelle César Atout Badiat, à la tête d'une unité du FNDC, Mouvement des forces démocratiques de Casamance, et un émissaire du président Macky Sall ont signé cet accord à la présidence de la Guinée-Bissau. Vous êtes entré dans le maquis quand j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. Je crois que ça suffit maintenant. Combien de personnes sont mortes, mutilées ou ont quitté leur village? Nous allons vous accompagner dans la recherche de la paix, a déclaré le président bissau-guinéen Oumarou Sissoko Embalo, s'adressant au chef rebelle Atout Badiat. Le président Macky Sall dit être engagé pour la consolidation de la paix durable en Casamance. Il a fait de la paix définitive dans cette région l'une des priorités de son second mandat. Mais ces tractations pour un accord définitif ont été compliquées par les divisions au sein du FNDC. Les rébellions en Casamance ont fait plusieurs milliers de morts depuis 1982.
Deux organisations de défense des droits de l'homme affirment ce vendredi que les femmes ont été victimes de violences durant la campagne électorale au Kenya à quelques jours du scrutin du 9 août. Selon la Fédération internationale des droits de l'homme et l'ONG Commission des droits de l'homme du Kenya, plusieurs cas de viol durant la campagne, dont quatre cas en marge d'un meeting finalement annulé le 19 juin, ont été signalés. Et ceci malgré les avertissements et les promesses du gouvernement de s'attaquer au problème. Au Soudan, cinq membres des forces de sécurité ont été tués dans une embuscade montée par un groupe armé dans la région du Darfour. Annonce faite ce vendredi par la police qui n'a pas identifié le groupe en question. Le Soudan est en proie à de multiples turbulences depuis octobre dernier et le coup d'État mené par le chef des armées Abdel Fattah al-Burhan. De nombreux combats entre diverses factions ethniques ont repris, créant un nouveau cycle de violence, notamment dans les régions les plus reculées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine a suspendu toute coopération avec les États-Unis sur le réchauffement climatique et d'autres domaines. C'est en représailles à la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américains. Le point avec Eric Manerekiza.
Pékin va suspendre les négociations sino-américaines sur le changement climatique et annuler un entretien entre les dirigeants militaires ainsi que deux réunions sur la sécurité, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères, reprochant à la présidente de la Chambre des représentants américains, Nancy Pelosi, d'avoir traité avec mépris l'opposition de la Chine à sa visite à Taipei. La Chine et les États-Unis, les deux plus importants émetteurs de gaz à effet de serre du monde, avaient noué un accord surprise sur le climat lors du sommet de la COP26 à Glasgow l'an dernier. Pékin a également dit suspendre la coopération avec Washington sur le rapatriement des migrants illégaux ainsi qu'en matière de justice, de criminalité transnationale et de lutte anti-drogue. Les plus grands exercices militaires jamais organisés par la Chine près de Taïwan doivent se poursuivre jusqu'à dimanche midi. À Tokyo, Nancy Pelosi a affirmé que les États-Unis ne permettront pas à la Chine d'isoler Taïwan.
Par ailleurs, la Maison-Blanche a convoqué l'ambassadeur de Chine à Washington pour condamner le comportement qu'elle juge irresponsable et provocatrice de la Chine au sujet des manœuvres militaires autour de l'île de Taïwan, selon le porte-parole de la Sécurité nationale John Kirby. En Irak, des dizaines de milliers de partisans de Moqtada Sadr ont tenu la traditionnelle prière du vendredi dans la zone verte ultra sécurisée à Bagdad. Une nouvelle démonstration de force de l'influent politicien en passe d'obtenir de ses rivaux des législatives anticipées sous certaines conditions. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Après la prière, quelques centaines de manifestants sont retournés aux abords du Parlement qu'ils occupent depuis le 30 juillet dans la zone verte, quartier de la capitale abritant institutions étatiques et ambassades. Leur sit-in a été initié pour protester contre une candidature au poste de premier ministre présentée par les puissantes factions chiites pro-iraniennes. Capitalisant sur sa capacité à mobiliser les foules, Muqtada Sadr a appelé à la dissolution du Parlement et des élections législatives anticipées moins d'un an après le scrutin qu'il avait remporté haut la main. Le cadre de coordination, son grand rival, s'est dit ouvert à des élections anticipées, réclamant à demi-mot la fin du sit-in au Parlement. Le président du Parlement, Mohamed Al-Alboussi, a apporté sur Twitter son soutien à des législatives anticipées, estimant qu'il était impossible d'ignorer la volonté des masses. 10 mois après les législatives, l'Irak attend toujours la désignation d'un nouveau premier ministre et d'un président de la République sur fond de querelles politiciennes.
Le président américain Joe Biden s'est félicité ce vendredi du recul du taux de chômage en juillet qui reflète selon lui les progrès conséquents pour les travailleurs et leurs familles sous son mandat. En juillet, 528 000 emplois ont été créés, deux fois plus qu'attendu. Le taux de chômage recule de 0,1 point et tombe à 3,5%, retrouvant son niveau d'avant la pandémie qui était au plus bas en 50 ans. C'est ce qu'a annoncé en tout cas ce vendredi le département du travail. Puis le président russe Vladimir Poutine espère la signature d'un accord pour renforcer la coopération économique avec la Turquie. Il l'a dit en accueillant ce vendredi son homologue Recep Tayyip Erdogan à Sochi, dans le sud de la Russie. Le chef du Kremlin a remercié le président turc pour ses efforts qui ont permis de retrouver un accord entre Moscou et l'Ukraine sur les livraisons des céréales ukrainiennes.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nathalie Barche.
Au Cameroun, le ministre des Travaux publics Emmanuel Djoumessi et le ministre des Transports Jean-Ernest Ngalé-Ebié ont signé hier à Yaoundé un projet d'intégration des infrastructures de transport. D'ici 2030, il est prévu de bitumer 6000 km de route, de développer le réseau ferroviaire Douala-Ngaoundéré-Ndjamena, les ports de Limbé et Kribi ainsi qu'un nouveau terminal à l'aéroport de Douala. La sixième semaine de l'industrialisation de la communauté de développement de l'Afrique australe se poursuit en RDC. L'agro-transformation, le secteur des minéraux et le concept d'économie inclusive sont parmi les divers thèmes abordés visant à promouvoir l'industrialisation. Lancé mardi par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, l'événement prendra fin demain samedi.
Place maintenant au sport. Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Un nouveau lion indomptable dans la tanière.
Oui, Brian Mbeumo, attaquant du Brentford FC en Première Ligue anglaise, jouera désormais pour le Cameroun. À travers un communiqué, la Fédération camerounaise de football a officialisé l'arrivée de l'ailier de 22 ans. D'après le texte de la FECAFOOT, cette décision résulte de l'aboutissement des échanges nourris avec le président de la fédération, Samuel Tofis. Brian Mbeumo a été formé à Troy avant de rejoindre l'Angleterre avec Brentford FC la saison écoulée. Il a inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en 38 matchs, toutes compétitions confondues. Il pourra éventuellement disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec le Cameroun logé dans le groupe G avec la Suisse, la Serbie et le Brésil.
Kylian Mbappé va manquer l'ouverture de la saison du PSG.
La star du Paris Saint-Germain ne prendra pas part au premier match de la saison de son club face à Clermont demain samedi à cause d'une blessure aux adducteurs. C'est ce qu'a annoncé le PSG. Kylian Mbappé a déjà raté la victoire 4-0 du PSG sur Nantes lors du Trophée des champions à Tel Aviv en Israël le week-end dernier en raison d'une suspension. Le PSG entame sa défense du titre de Ligue 1 avec un nouvel entraîneur, Christophe Galtier, ayant succédé à Mauricio Pochettino. Lionel Messi et Neymar, qui ont tous deux marqué contre Nantes, sont dans l'équipe avec les nouvelles recrues Vitina, Igo Ikiteke et Nordi Mukiele.
Athlétisme, Toby Amoussan qualifié pour la finale du 100 mètres et aux Jeux du Commonwealth.
La star nigériane, championne du monde et détentrice du record du monde de la discipline, a encore été impressionnante ce vendredi à Birmingham en Angleterre. Toby Amoussan a commencé la défense de sa couronne en terminant en tête des temps de qualification en 12 secondes 40 dans des conditions venteuses. Dimanche, en finale, la Nigériane fera face à un groupe de rivales, la médaillée de bronze olympique Megan Typer, qui a remporté sa manche en 12 secondes 68. Ses deux autres potentielles concurrentes sont l'Anglaise Cindy Samber et la Jamaïcaine Danielle Williams.
Basketball pour terminer, Phoenix et Connecticut observent 42 secondes de silence pour Brittney Griner.
C'était avant leur match de championnat WNBA, rassemblés au centre du parquet à Uncasville. Dans le Connecticut, les joueuses des deux équipes se tenant toutes par la taille, tête baissée, certaines en larmes, ont ainsi affiché leur soutien à Brittney Griner. Les 42 secondes de silence correspondent à son numéro de maillot habituel avec Phoenix. Parmi le public, de nombreuses personnes ont revêtu des t-shirts à l'effigie de la star du basket féminin avec l'inscription « We are Brittney Griner ». Nous sommes Brittney Griner. La joueuse de basket a été condamnée hier à 9 ans de prison en Russie pour trafic de drogue. Dans un communiqué conjoint, la Ligue féminine nord-américaine de basketball WNBA et la NBA ont déploré une condamnation injuste et regrettable. Un hashtag FreeBJ, libéré Brittney Griner, est relayé sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Sénégal, après la publication hier des résultats des législatives qui ont donné une très courte majorité au camp présidentiel, les yeux sont tournés vers le Conseil constitutionnel qui doit maintenant proclamer les résultats définitifs. Si ces résultats sont confirmés, 3 députés pourraient être les faiseurs de roi lors de la prochaine législature. Le reportage à Dakar de Seydina Abagay.
Moustapha Gueye, je pense que les députés, ces 3 députés qu'on appelle faiseurs de roi, sont des faiseurs de roi parce qu'ils peuvent maintenant réguler l'Assemblée nationale. Et si j'étais eux, je serais parmi les non-alignés et en permettre, et je serais le peuple parce que les députés de Beno Bokayakar vont être les députés de Beno Bokayakar. Ils vont être la majorité, une majorité mécanique. Les députés de l'opposition aussi seront les députés de l'opposition. Ils seront eux aussi une majorité mécanique. Donc, si c'était Pape Djibril Fall, Tierno Alassane Sall et Pape Diop, je ferais partie des non-alignés pour aider le peuple et réguler l'Assemblée nationale.
Bonjour, c'est Abdoulaye Cissé, un ancien de la faculté des sciences juridiques et politiques. Pour Pape Djibril Fall, donc depuis la publication des résultats, il est acculé par bon nombre de gens et je pense qu'il a été clair, il est de l'opposition. Pour Tierno Alassane Sall, on connaît tous les conditions dans lesquelles il a quitté le pouvoir pour certains, limogé pour d'autres. Donc il a clairement dit hier, à travers un communiqué, qu'il ne sera pas du côté du président de la République.
Je suis conseiller clientèle et je m'appelle Moula Idriss Agassama. Je pense à mon humble avis que s'il devrait se ranger, ce serait du côté de l'opposition pour créer une majorité et contrebalancer un peu le pouvoir qui est en place. Voilà, c'est ce que je pense. Sinon, les lois vont passer comme, on va dire, lettre à la poste. Et ça serait... Donc tous ces efforts, on va dire, n'auraient servi à rien. Tous ces efforts pour contrecarrer, on va dire, le pouvoir en place dans certaines, on va dire, exagérations. Là, si on peut l'appeler ainsi.
Mais il y a un cas spécifique, le cas Pape Diop, un vieux briscard, comme on aime le dire, quelqu'un qui est dans l'endernement politique depuis très longtemps. Donc, il n'a presque rien à perdre en rejoignant Beno Bokayakar. Bon, on peut lui proposer des postes. Donc, c'est un cas qui mérite une profonde réflexion. Beaucoup de gens se posent des questions sur le cas, plus sur le cas Pape Diop que sur les deux cas, Pape Djibril Fall et Tierno Alassane Sall.
Je m'appelle Salman Al-Farizi Sow. De ce fait, normalement, pour être en phase avec leur programme, pour être en phase avec leurs militants qui ont voté pour eux et contre Beno Bokayakar, ils ne doivent pas être du côté du pouvoir, mais du côté du peuple et du côté donc, de ceux qui les ont élus. L'essentiel pour tous les députés, que ce soit l'intercoalition Yewi Wallou, que ce soit Beno Bokayakar, que ce soit MPR, Art Sénégal ou bien Bokou Giss Giss, ce qu'ils doivent comprendre et savoir, c'est qu'ils sont tous là-bas pour le peuple sénégalais.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Sur les 4 candidats qui se présentent à l'élection présidentielle du 9 août au Kenya, 3, dont le favori Raila Odinga, ont choisi des femmes comme colistières. L'élection pourrait consacrer de grands changements dans la politique nationale, mais les femmes politiciennes estiment que leur percée ne sera pas facile. Reportage à Nairobi de Juma Majanga avec le récit de Ginny Niwa.
C'est du jamais vu au Kenya. 3 des 4 candidats à l'élection présidentielle du 9 août ont des colistères. Le tandem composé de l'ancien premier ministre Raila Odinga et de Martha Karua, l'ex-ministre de la Justice, est en tête des sondages. Tom Wolf, chercheur et analyste politique.
Quand vous avez une femme avec une autorité publique de Martha Karua qui a été députée pendant 15 ou 20 ans, elle a servi dans le cabinet de Mwai Kibaki et elle a démissionné par principe. Elle a ensuite dirigé son propre parti politique, NARC Kenya. Je pense que cela a permis aux 2 autres candidats présidentiels de voir que c'était très bien et peut-être même politiquement avantageux d'avoir une femme comme colistière.
Justina Wamae se présente avec le candidat à la présidence, George Wajakoya. Elle a grandi en regardant des femmes au premier plan, comme Martha Karua, qui est maintenant sa concurrente.
Je suis contente parce que Martha Karua et les autres femmes comme Maman Guilou ont fissuré le plafond de verre. Maintenant, nous l'avons fait sauter, 3 d'entre nous. C'est important.
Son parti a élaboré un manifeste sans précédent promettant d'exécuter les personnes reconnues coupables de corruption, de mettre en place une semaine de travail de 4 jours et de légaliser la marijuana.
Pendant ce temps, Ruth Mutua se présente avec le candidat du parti Agano, David Waiga. Certains Kenyans disent que le contrôle des femmes est politisé, tandis que d'autres estiment que les femmes sont enfin reconnues pour leur travail dans un domaine dominé par les hommes. Julie Kisaina, habitante de Nairobi.
Nous avons grandi en nous disant que les hommes sont censés dominer la société, ils sont censés nous diriger, mais maintenant que tout le monde reconnaît ce que nous pouvons faire et que l'ouverture nous donne un espace pour nous exprimer et aussi pour aider au leadership, c'est formidable.
Deux femmes ont perdu une course à la présidence. Les observateurs affirment que cette élection pourrait permettre pour la première fois qu'une femme occupe le deuxième siège, le plus important de l'appareil d'État, en tant que vice-présidente.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entamera dimanche en Afrique du Sud une tournée dans trois pays d'Afrique. Selon les experts, les droits de l'homme devraient figurer en bonne place dans l'agenda du chef de la diplomatie américaine. Mise en perspective, Cindy Sen, et c'est un récit de Jean-Roger Bion.
C'est la deuxième fois en tant que chef de la diplomatie américaine qu'Anthony Blinken effectue une visite en Afrique. Il doit prononcer un discours en Afrique du Sud pour exposer la stratégie de l'administration Biden pour l'Afrique subsaharienne. Joseph Sani de l'Institut américain pour la paix dit s'attendre à ce que M. Blinken dise qu'il est venu écouter les solutions proposées par les Africains pour relever les défis du continent.
Nous allons là-bas pour voir quelles sont les solutions existantes et comment nous pouvons les soutenir. Donc, nous ne voulons rien imposer. C'est très important parce que dès que vous imposez des directives, vous aspirez l'oxygène de la pièce et vous tuez leur créativité et en l'occurrence celle des Africains.
L'insécurité alimentaire, l'agro-business et les opportunités pour les jeunes, la plus grande frange de la population africaine, devraient figurer à l'ordre du jour. Les récents combats dans l'est de la République démocratique du Congo ont aggravé les tensions entre Kigali et Kinshasa. La RDC a accusé le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, ce que dément le Rwanda. Nicole Wiedersheim de Human Rights Watch via Skype.
La violence a augmenté. Des civils sont tués dans l'est de la RDC. Nous voulons voir le gouvernement américain obtenir l'accord du Rwanda et de l'Ouganda de cesser de soutenir les forces du M23 qui fomentent la violence dans l'est. Nous espérons donc que cela sera à l'ordre du jour et nous sommes heureux que le secrétaire Blinken se rende au Rwanda et en RDC. La RDC a également une élection importante à venir.
Discuter avec les dirigeants de Kinshasa et de Kigali est la bonne décision, selon Michael Holland de la Brookings Institution.
Je pense que si Blinken explique que le soutien de l'Amérique à chaque pays va être en partie subordonné à l'amélioration de leurs efforts en matière de démocratie, de droits de l'homme et de lutte contre la criminalité et la corruption, alors c'est une chose parfaitement raisonnable pour lui d'aller délivrer ce genre de message.
La visite de M. Blinken intervient après une tournée africaine du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a imputé la pénurie de céréales dans le monde aux sanctions occidentales contre Moscou. Selon M. Sani, la Russie est en train de gagner la bataille de l'opinion publique avec sa campagne de désinformation en Afrique. À nouveau, Joseph Sani de l'Institut américain pour la paix.
Il est important pour les États-Unis et l'Occident d'améliorer leur jeu en termes d'information des Africains et des pays africains. Et je pense que c'est une opportunité de remettre les pendules à l'heure.
Il estime toutefois qu'il faudra plus qu'un discours du secrétaire d'État américain pour contrer la campagne de désinformation de la Russie, mais les récentes visites de diplomates américains de haut niveau constituent un bon début.
En Afrique du Sud, les éleveurs de moutons demandent à la Chine de lever l'interdiction d'exporter de la laine qui est en place depuis l'épidémie de fièvre aphteuse dans certaines parties du pays. La Chine est le plus grand marché de laine sud-africaine et cette interdiction a des conséquences douloureuses pour les agriculteurs, en particulier les petits producteurs des zones rurales. De Johannesburg, le reportage de Kate Barlett et c'est un récit de Yacouba Ouedraogo.
Les éleveurs de moutons ressentent pleinement l'impact de l'interdiction de 4 mois imposée par la Chine sur la laine sud-africaine avec la première vente aux enchères de laine de la saison mi-août. Cette interdiction a causé des pertes d'une valeur de quelque 734 millions de rand, soit 43 millions de dollars, explique Léon Desbilleurs, manager général de l'Association nationale des producteurs de laine.
L'interdiction est injustifiée, puisque l'Afrique du Sud a mis en place des protocoles qui réglementent le stockage de la laine après la tonte comme stipulé.
La Chine a interdit d'importer de la laine sud-africaine en avril, après que des cas de fièvre aphteuse ont été signalés dans certaines régions du pays. Desbilleurs affirme qu'il y a plus de 40 000 petits agriculteurs noirs en Afrique du Sud qui produisent près de 6 millions de kilogrammes de laine par an, dont 80% sont destinés à la Chine.
Ces producteurs et les communautés environnantes vont retomber dans la pauvreté si le marché chinois reste fermé à la laine sud-africaine.
Sipiwo Makinana est un petit éleveur de moutons de la ville d'Oudjé, dans la province du Cap Oriental. Il dit que l'interdiction a été dévastatrice pour son gagne-pain ainsi que pour les autres agriculteurs de sa région. Selon lui, ils vont perdre la laine stockée dans leur hangar.
À cause de l'interdiction imposée par la Chine, j'ai perdu 60 000 rands, ce qui représente beaucoup d'argent pour moi en tant que petit agriculteur.
Les exportations de laine de l'Afrique du Sud valent environ 300 millions de dollars par an. Christo van der Riede, directeur de l'AgriSA, une fédération des syndicats agricoles, soutient que son organisme fait pression sur le gouvernement sud-africain pour qu'ils prennent en compte ses préoccupations avec la Chine.
Toutes les zones où la laine est produite ne sont pas touchées par la maladie. Elles peuvent aussi garantir que la laine qui est exportée est traitée correctement afin qu'une spore de fièvre aphteuse ne puisse survivre.
L'ambassade de Chine à Pretoria n'a pas répondu à nos demandes répétées de réaction. Vandil Chilobo, économiste en chef à la Chambre des affaires agricoles, affirme que l'Afrique du Sud vend également sa laine au Mexique, aux États-Unis et ailleurs. Mais ce sont des marchés beaucoup plus petits.
L'Afrique du Sud n'est pas vraiment en mesure de chercher d'autres marchés en dehors de la Chine, car dans le monde, la Chine continue d'être la principale acheteuse de laine.
Lorsque la deuxième économie mondiale cesse d'importer votre produit, les effets peuvent être dévastateurs. Une interdiction chinoise des vins australiens en guise de représailles contre les commentaires de Canberra sur les origines du COVID-19 a nui à cette industrie. Pékin a imposé cette semaine des interdictions d'importation à des centaines de producteurs alimentaires taïwanais après que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a visité l'île. Bien sûr, l'interdiction d'importer la laine sud-africaine n'est pas une mesure de représailles, mais elle met en évidence le danger de dépendre du marché d'un seul pays.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot et Michel Joseph. Présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.